Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite l'émission Petite Consultation entre amis.
C'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait.
Petite Consultation entre amis. L'émission de santé totalement décomplexée, le samedi à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lesquels nous disséquerons cette semaine l'actualité, en commençant par les infos qu'il faut, présentées par le docteur Marion. La pomme d'Adam, c'est l'expression rigolote présentée par le docteur Adrien. Festination, c'est votre mot, docteur Marion, le mot du médecin. Et enfin, une question existentielle que se pose Radin63, le sida est-il héréditaire? Docteur Adrien, vous y répondrez, et puis on finira évidemment par les tant attendus brèves de salles d'attente. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin, en direct sur le plateau de Radio Campus Paris, avec une très belle brochette de spécialistes. Docteur Marion, vous êtes et malade et docteur. Bonsoir docteur Marion, avec une minerve pour les auditeurs qui ont l'image. Je ne vous fais pas l'affront de vous savoir comment ça va, docteur Marion.
A priori, pas du tout. Ça ne va pas du tout.
A priori, ça ne va pas du tout.
Mais un plaisir d'être avec vous.
Exactement, peut-être une dernière fois.
Voilà.
Sur le plateau également, docteur Adrien, bonsoir.
Bonsoir docteur Loïc.
Alors spécialiste de tout et de rien, hein, comme toutes les semaines.
Surtout.
Surtout de rien. Et on salue évidemment notre docteur Julie qui n'a pas pu nous rejoindre. Notre voix chaude et suave qui sera là peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On ne sait pas. Allez, avant tout ça, on se fait un petit tour de l'actu santé.
C'est la principale info de la semaine. Les hommes ont du mal à avaler la pilule.
Effectivement, docteur Marion, quand on regarde quelles sont les méthodes contraceptives les plus proposées, un détail saute aux yeux, elles ne s'adressent qu'aux femmes. Un constat d'autant plus édifiant que seuls 5% des hommes utilisent le préservatif sur la planète.
Alors la contraception ne serait-elle qu'une affaire de femmes?
En tout cas, docteur Marion, rares sont les hommes qui semblent intéressés par la question. Il existe pourtant des méthodes de contraception masculines. En France, seulement 15% de la gente féminine utilise le préservatif, 3% ont recours au retrait et la vasectomie encore plus marginale concerne à peine 0,2% des hommes, indique Cécile Ventola, sociologue à l'INED et auteur d'une thèse sur la contraception masculine. Dans l'opinion, la contraception est une problématique féminine, peut-être aussi parce qu'elle a plus de conséquences sur la vie de la femme si elle est mal assurée, analyse-t-elle. Peut utiliser les méthodes de contraception masculine ne serait quasiment pas prescrite par les médecins français.
Mais pourtant, des méthodes à destination des hommes existent.
Et oui, elles existent, elles sont disponibles, légales depuis 2001. La vasectomie est malheureusement difficile d'accès et a peu la cote. L'intervention simple et sans hospitalisation reste marginale. Trop d'hommes ont encore le sentiment que cela reviendrait à les castrer et à les atteindre dans leur virilité, déplore Pierre Collin. En Allemagne, pourtant, pas moins de 50 000 vasectomies sont pratiquées chaque année. Côté médicaments, si la pilule contraceptive pour hommes n'a toujours pas vu le jour, une contraception hormonale masculine existe également. Encore faut-il trouver un médecin qui accepte de la prescrire. Seulement 2 médecins hospitaliers la prescrivent en France, bien que le protocole qui consiste en des injections de testostérone ait été validé par l'OMS et expérimenté sur 1500 hommes ces 30 dernières années. La méthode thermique plus triviale consiste à remonter les couilles, excusez-moi, hein, c'est décrit avec humour par le cofondateur de l'Adercom, et qui est une méthode qui a été mise au point il y a une trentaine d'années, et elle est prescrite uniquement au CHU de Toulouse, à bon entendeur. Bref, pour démocratiser ces méthodes de contraception encore confidentielles, Adercom et le planning familial de Paris se sont associés, et ils le disent, il est important de donner aux gens le plus large éventail de choix en matière de contraception, estime Catherine Elmaxi, conseillère conjugale et familiale au planning familial.
Quoi de neuf, docteur ?
Et quoi de neuf, docteur Marion, justement, les infos qu'il faut, et vous allez nous parler de journée mondiale et de congrès à n'en plus finir.
Tout à fait. Cette semaine, à retenir la journée mondiale de lutte contre la polio, ce sera aujourd'hui, enfin c'est aujourd'hui même, le 24 octobre. L'origine de cette journée mondiale revient au Rotary International et ses nombreux partenaires pour cette cause, l'OMS, l'UNICEF, la fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi des gouvernements de par le monde. Les actions lancées depuis 25 ans dans le cadre de cette campagne ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires et permettent d'affirmer avec un optimisme raisonnable en finir avec la polio. On y est presque.
Alors côté chiffres, Marion, la polio, ça donne quoi ?
Au début des années 90, la poliomyélite touchait 350 000 personnes par an dans 125 pays. Elle est encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des milliers d'enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès. Depuis cette époque, les campagnes de vaccination ont permis de faire reculer le fléau et on observe un déclin rapide. De nombreuses zones de la planète sont débarrassées presque complètement de la maladie. Malheureusement, encore trois points noirs. Trois pays constituent encore des foyers de résistance à la polio. Il s'agit du Nigeria, du Pakistan et de l'Afghanistan. Les efforts entrepris doivent y être poursuivis pour arriver à une disparition totale de la maladie.
Et alors, deuxième journée mondiale, c'est la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux et c'est donc le 29 octobre, Marion.
Tout à fait, l'accident vasculaire cérébral tue et peut laisser des séquelles irréversibles. Agir vite pour le cerveau, tel pourrait être le mot d'ordre de la journée de l'AVC. L'objectif principal de cette journée est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique en les incitant à composer le 15 dès l'apparition des premiers symptômes.
Alors connaissons-nous les signes avant-coureurs des AVC, docteur Marion ?
Oui, les signes avant-coureurs, paralysie ou engourdissement brutaux d'un côté du corps, difficulté soudaine à s'exprimer, perte de l'attention, diminution très brutale de la vision d'un œil. Les attaques cérébrales touchent chaque année 150 000 nouvelles personnes et se positionnant ainsi à la troisième place dans les causes de mortalité en France. Faute d'une prise en charge très rapide, les lésions peuvent devenir irréversibles. Chaque minute compte.
Alors les enfants sont aussi malheureusement concernés par ces AVC ?
Tout à fait. Dans notre inconscient collectif, les AVC touchent essentiellement les adultes et les risques s'accroissent avec l'âge. Et pourtant, les enfants aussi sont concernés et on recense de nombreux cas d'AVC chez des nourrissons ou des enfants. L'association AVC de l'enfant s'est créée pour informer les parents sur la maladie, les causes connues, les séquelles et les conduites quand survient un accident vasculaire cérébral chez un enfant.
Et alors on passe maintenant à quelque chose de prestigieux, le congrès de l'Ordre des médecins qui a lieu du 29 au 31 octobre et c'est à Paris.
Tout à fait, le congrès de l'Ordre des médecins qui aura lieu du 29 au 31 octobre à Paris qui réunira l'ensemble de la profession sous la présidence du docteur Patrick Bouet pour évoquer effectivement l'ensemble des sujets d'actualité en cours sur la profession.
Allez, vous écoutez toujours Radio Campus Paris, on écoute Ratatata, Crime on Chrome.
Oh,
de retour sur Radio Campus Paris, l'émission Petite Consultation entre amis, et on retrouve tout de suite l'expression rigolote, la pomme d'Adam.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors docteur Adrien, vous avez fait des recherches cette semaine et vous allez nous expliquer d'où vient l'expression, la pomme d'Adam. Alors déjà, ça signifie quoi cette expression ?
Alors, tout d'abord, la pomme d'Adam, qu'est-ce que c'est ? C'est une saillie du cartilage thyroïde qui est présent dans le cou de l'homme, hein, sur la face antérieure, donc la face avant. Donc cette saillie est plus marquée chez l'homme, mais contrairement à ce que son nom pourrait supposer, on trouve également une pomme d'Adam chez la femme, sauf qu'elle est moins apparente.
Et alors, au niveau de l'origine de cette expression, ça vient d'où concrètement ?
Alors, en fait, cette expression fait allusion à la Genèse, hein, donc la Bible, si vous voulez. Succombant à la tentation, Adam mordit à pleines dents dans le fruit défendu, la pomme, mais un morceau resta coincé et il serait encore visible aujourd'hui, là, puisque la pomme d'Adam désigne cette saillie plus ou moins apparente, comme
là,
je le disais tout à l'heure.
Vous êtes en train de citer la Bible, docteur Adrien.
Absolument.
Très bien. Parfait. Et donc ?
Alors, écoutez, on va continuer sur la Bible, hein, puisque après qu'il ait façonné le ciel et la terre, Dieu se mit en tête de créer le jardin d'Éden. Au milieu de ce jardin, il planta deux arbres. Le premier, l'arbre de la vie, qu'on retrouve dans énormément de mythologies et de religions. Hein. On peut penser par exemple à Yggdrasil, l'arbre sur lequel repose le monde dans la mythologie nordique. Et le deuxième, c'est l'arbre de la connaissance. Allez comprendre d'ailleurs pourquoi Dieu a choisi de planter deux arbres, un seul aurait largement suffi, mais passons. La suite, on la connaît tous. Après avoir créé le jardin d'Éden, Dieu y installe Adam et Ève. Ces derniers jouissent d'une liberté absolue, ils peuvent même se balader tout nus, les vénards. À une exception près, sous aucun prétexte, ils ne doivent manger au fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance. Ah Dieu, on te reconnaît bien là avec tes coups fourrés. Ne va pas me faire croire que tu ignorais comment tout ça allait finir. Et oui, sans surprise, Ève, à qui on ne confierait pas son chat pour partir en vacances, se fait convaincre par le serpent de croquer dans le fruit défendu. Pire, elle incite même son mari à en manger à son tour. On remarquera au passage que, à peu près dans toutes les mythologies et religions, ce sont toujours les femmes qui conduisent l'humanité à sa perte.
Bon, sans commentaire. Alors,
coïncidence, je pose la question.
Pour une fois qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le studio, on peut se permettre, docteur Adrien.
Continuons, absolument.
Continuons. Je vous remercie.
Et donc, pire, disais-je, elle incite son mari à en manger à son tour. Pandore n'aurait vraiment pas mieux fait. Alors Dieu, on s'en doute, n'est absolument pas content de cette trahison, et il condamne la femme à enfanter dans la douleur et l'homme à devoir travailler à la sueur de son front pour survivre. Donc jusque-là, on connaît à peu près l'histoire, mais contrairement à ce qu'on croit savoir à propos de la Bible, il n'est pas précisé la nature exacte de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance. Certains pensent que c'était l'olivier ou la vigne pour l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance, donc la pomme en l'occurrence, il est très probable, en fait, qu'il s'agisse d'un figuier, voire d'un grenadier. Et la confusion viendrait de la traduction du latin, puisqu'en latin, malum désigne à la fois le mâle, diable, donc le diable, le serpent qui donne la pomme à manger, et la pomme en elle-même. Et pomum, qui ressemble plus à pomme, désigne le fruit en général. Pomme, poire, figue, grenade, ananas. Avouez que ça aurait été quand même plus marrant avec un ananas.
C'est vrai. Merci en tout cas, docteur Adrien. Et on enchaîne tout de suite avec le mot du médecin.
Il a beau beau le bébé, 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 il a beau beau.
Alors cette semaine, docteur Marion, vous avez le mot du médecin, et le mot du médecin est festination. Rien à voir avec les équipes de cyclisme, on imagine.
Tout à fait. Effectivement, ne pas faire de mauvais liens.
Alors du coup, l'origine de festination, ça vient d'où ?
Donc c'est un terme issu du latin, du mot festinare, qui signifie se hâter.
Donc on pourrait l'employer, genre je vais me festinare pour faire les courses, etc.
Tout à fait, je suis en retard, je me festinare.
Je me festinare, dis donc, pas mal. Et alors au niveau de la signification, ça signifie quoi ?
Alors ça signifie en fait tendance à marcher plus vite de façon à éviter la chute en avant. La festination se rencontre chez certains patients, essentiellement ceux atteints de la maladie de Parkinson. Elle correspond au premier degré de la propulsion. La propulsion, appelée également antépulsion, est la tendance pour certains patients d'accélérer leur marche jusqu'à prendre le pas de course. À ce sujet, le médecin Trousseau disait « Ils semblent courir après leur centre de gravité. »
Comme vous semblez courir après vos chroniques, docteur Marion. Merci en tout cas. Elle est pas mal cette phrase du docteur Trousseau. « Ils semblaient courir après leur centre de gravité. » Mais c'est magnifique. C'est magnifique.
C'est lourd de sens.
Et c'est magnifique parce qu'on va aller sur les forums internet avec vous, docteur Adrien.
Oh, n'ayez pas peur, monsieur. On va soigner votre bobo.
Alors là, on a du lourd, docteur Adrien, cette semaine, avec une question, il me semble, de... J'ai perdu mes feuilles.
De Radin63.
De Radin63, qui pose la question existentielle qui est...
Qui est, salut tout le monde, voilà, avec mon copain, on voudrait faire l'amour sans préservatif, seulement on n'a pas encore fait de test HIV. VIH, HIV, pardon. Dans nos familles, il n'y a pas d'antécédents de porteurs de sida. Peut-on faire l'amour sans préservatif, sans avoir fait le test ?
Alors, rappelons que la question idiote est la question qu'on ne pose pas. Donc un petit rappel quand même sur le sida. Pas d'hérédité sur le sida.
Pas d'hérédité sur le sida, effectivement. Hein. Cela dit, ça ne justifie pas de se passer du test. Si on veut faire l'amour même avec quelqu'un de confiance, il vaut toujours mieux faire le test.
Alors, on le rappelle quand même, c'est toujours bien, des petits rappels sur aucun risque dans la vie quotidienne. Comment on ne peut pas attraper le sida ?
Alors, avec les animaux, en les approchant ou les caressant, avec les vêtements, on peut parfaitement échanger des vêtements avec une personne séropositive. On peut se faire piquer par un moustique qui éventuellement aura porté son dévolu sur une personne séropositive avant et ne rien risquer non plus. Serrer la main à quelqu'un, partager les toilettes, manger dans la même assiette, toucher une personne séropositive, l'embrasser, prendre une douche en même temps qu'elle ou dans la même douche qu'elle, aller à la piscine. Voilà, tout ça, c'est des choses qui ne comportent aucun risque.
Le rappelle après, sinon, c'est le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin.
Voilà, le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, hein, que ce soit pour la fellation, pour la pénétration anale ou vaginale. Et même pour la fellation, et le cunnilingus, il faut se protéger pour ces choses-là.
Donc le préservatif à tout prix, mais en tout cas, rappelons-le, le sida n'est pas héréditaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, docteur Adrien, pour ces infos, et merci à Radin63, et puis on retrouvera peut-être Radin63, on vous lui répondrait directement peut-être.
Bah écoutez, ma foi, avec plaisir.
Avec plaisir. Allez, avant de se quitter, on retrouve les brèves de salle d'attente. Et sur cette musique joviale, eh bien, on part dans le Puy-de-Dôme.
Dans
exactement en France. Allez, une cinquantenaire a été placée sous contrôle judiciaire et elle avait une relation un peu... Alors, c'est pas une relation particulière avec son oncle, mais elle a essayé de faire quelque chose avec son oncle qui était hospitalisé.
Elle a essayé de lui apporter une aide, une assistance sexuelle, non ?
Alors, pas du
grand
tout.
Sujet
non, pas
en
du
ce
tout,
moment d'actualité.
Pas du tout, okay. Docteur Marion, non, on n'est pas dans le... Non, on n'est rien à voir dans le sexuel. Je sais que c'est votre partie, mais ce n'est pas ça.
Elle a essayé de l'aider par une perfusion ou de le retirer une perfusion ?
Non, elle n'a pas, alors c'est pas vraiment un geste... Elle n'a pas essayé de changer sa couche non plus.
Avec son oncle.
Alors son oncle est hospitalisé. A priori, d'après ce qu'elle a dit, en tout cas, elle voulait vraiment le soulager.
Elle voulait le soulager. Ah, donc c'est pas sexuel. Elle voulait le soulager, mais pas de manière sexuelle.
Elle l'a aidé à uriner ?
Non, pas du tout. Non, c'était vraiment soulager un peu plutôt pour le grand départ.
Qu'a pu-t-elle bien faire ?
Elle s'est occupée de son testament.
Allez, je vous aide un petit peu. Je vous aide un peu. Alors du coup, elle a caché des médicaments. Où ça d'ailleurs ?
Dans son cercueil.
Derrière son oreille.
Non, pas du tout. Alors, il n'était pas mort. Hein. Son oncle n'est pas mort. Il n'est toujours pas mort.
Ah, d'accord, ok. Ah, mais je suis heureuse pour elle.
Eh bien, alors,
dans une boîte de chocolat.
Je vous donne quelques. Ouais, alors, âgé effectivement de 92 ans, l'oncle, il était hospitalisé à l'hôpital, au CHU, à l'hôpital Nord de Clermont-Ferrand d'ailleurs. Je ne l'invente pas. Et elle a caché dans des éclairs au chocolat. Elle a bourré des éclairs au chocolat d'anxiolytiques.
Ah, ok, pour lui éviter de souffrir.
Exactement. Alors, a priori, c'était vraiment pour qu'il soit un petit peu plus tranquille. C'est les infirmières en coupant les éclairs au chocolat qui sont remarquées que les éclairs étaient un peu durs.
L'intention était quand même bonne.
L'intention est louable, exactement. Allez, on part dans des choses qui sont terriblement drôles. Allez, un étudiant en médecine qui a appris ses schémas avec une drôle de technique, ses schémas d'anatomie. Et ça marche, il paraît.
Avec une drôle de technique, il les a, donc du coup, pas les techniques classiques, il les a pas écrits, répétés.
Non, il a reproduit ses schémas d'anatomie.
Ah, est-ce qu'il les aurait pas graffés sur un mur ?
Non, pas sur une personne, pas sur un mur.
Pas sur un mur ?
C'est à l'aide de quelque chose qu'il a reproduit, c'est...
Avec des objets, il a représenté le corps,
avec des objets,
pour faire des organes, etc.
Exactement.
Sur sa moquette de chambre.
Non, alors...
Étudiante.
C'est... Alors non, 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 c'est pas. Alors c'est pas avec. C'est avec des objets effectivement.
Et c'est des objets qui ont rapport chacun avec l'organe concerné.
Joli. Non, pas du tout. Non.
Mais c'est
plutôt
joli. Artistique.
C'est plutôt artistique. C'est ça. Oui, on peut dire que c'est artistique. On peut dire que c'est artistique.
Avec des objets de récupération.
Pas avec
parce
des objets
du coup,
de récupération.
Écolo
ça se mange.
Et futur médecin.
Allez, c'est
légumes, des fruits et légumes, bien
des
sûr.
Des fruits et légumes, pas du tout, absolument pas.
Des chocolats.
De la viande, des parties, les parties de la viande d'une vache.
Non, mais quelle imagination, quelle imagination. Ah non, pas du tout. Pas du tout.
On n'y est pas. On n'y est pas.
Aidez-moi s'il vous plaît.
Allez, je vous aide un petit peu. Ouais. Ça se mange et c'est plutôt bon.
Des bonbons. Chocolat.
Avec des bonbons, effectivement.
Oh, j'étais prêt, trouvez... j'ai dit chocolat.
Ouais, c'est pas mal. Allez, une question, docteur Marion. Est-ce que vous aimez les boissons amères, le café, le jus de citron?
Plutôt, ouais.
Plutôt, ouais. Ouais. Bien, c'est bien ce qui me semblait. Une étude qui a révélé quoi en fait sur les personnes qui aiment les boissons amères.
Elles ont un peu la tête de bois.
Alors, elles ont un peu la tête de bois. C'est pas tout à fait ça. On en est pas loin pourtant.
Qu'est-ce que
c'est? Elles sont plus intelligentes que les autres.
Elles sont pas plus intelligentes que les autres.
Ça,
non,
évidemment.
Pas du tout. Regardez Dr. Marion. Regardez Dr. Marion. Est-ce qu'elle a l'air plus intelligente que les autres? Pas du tout.
Tout
pas du
fait.
Tout.
Plus sensible.
Alors, c'est une étude autrichienne qui dit voilà, un goût particulier pour le café, entre autres, pour être associé à une tendance.
À être stressé,
à être psychopathe, tout simplement.
Ah, mais je vous remercie, docteur Loïc, je vous remercie pour le diagnostic.
Je vous en prie, hein, c'est voilà, l'université de Innsbruck qui est citée par le Daily Mail. Qui,
la ville de Sicile, impératrice.
Exactement, ils ont fait une expérience sur 500 hommes et femmes ayant consommé un nombre égal d'aliments sucrés, salés, acides et amers. Et du coup, voilà, ils ont évalué et a priori, les personnes psychopathes eh bien, seraient plus attirées par les boissons amères. Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qui aiment les boissons amères sont psychopathes, mais a priori, l'inverse serait quand même a priori juste. Allez, une dernière info. Alors, comme vous savez, c'est cette fameuse expression qui dit voilà, tout malheur est bon, il y a toujours « oh, tu as eu de la chance dans ton malheur », etc. Que s'est-il passé pour Eugène Finney, qui est maintenant hors de danger et qui avait été vraiment en danger? Alors je vous aide un peu, surfeur.
Ah, il a failli se faire manger par un requin, quelque chose comme ça, non?
Exactement, tout à fait. Hein. Il y a quelques semaines, il se baignait sur une plage californienne. Il a été attaqué par un requin. Mais justement, tout est bon. Alors pas dans le cochon,
dans
ni dans le
cochon.
Requin. Ni dans le cochon, ni dans le requin. Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'il a perdu un membre?
Non, il n'a pas perdu un membre, il s'en sort sans trop de dommages.
Ah bah c'est devenu une star en Californie, une star du surf et
non,
du coup...
Non, c'est pas devenu une star, mais comment justement en fait ce malheur du coup est devenu bon
et
pour
bah,
lui
c'est une espèce
ça, finalement,
de...
ce requin lui a un peu sauvé la vie. Allez, je vous aide. Hein.
Ah,
vous aide,
il avait une tumeur.
Exactement.
C'est
il avait
ça.
Une tumeur au rein.
Génial.
Il avait une tumeur au rein.
Et le requin lui a retiré la tumeur.
Non, alors le requin lui a pas du
c'est
tout.
Un requin
retiré.
Chirurgien.
Exactement. C'est sympa. Requin chirurgien. Non, pas du tout. Mais en tout cas, bah, évidemment, il a eu des examens médicaux. Et lors de ces examens médicaux, eh bien, on a découvert cette tumeur au rein qui lui a donc été enlevée. Et donc, il est voilà, il survit à cette attaque de requin, mais également à cette tumeur qui attaquait son rein. Tout
très
va bien pour lui.
Je
voilà.
Vais aller en vacances en Californie.
Exactement. Faites-vous attaquer par un requin, docteur Marion, pour être en forme. Merci. Voilà pour ces brèves. C'est déjà la fin, eh bien, de petites consultations entre amis. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30, 18h. À la réalisation cet après-midi, il y avait notre cher ami Quentin du 63, faut-il
merci
le
Quentin.
Citer exactement juste après nous. Eh bien, vous trouvez Tropical Club, vous avez évidemment plus d'informations sur www.radiocampusparis.org. Vous allez sur notre onglet émission, vous pouvez podcaster l'émission. Et on se retrouve en ce qui nous concerne la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, salut.
Très
ciao.
Bonne soirée.